Terrorist networks, terror states.
Et non, nous ne sommes toujours pas des terroristes, divergence numérique exceptionnellement en direct du 90.2 de Ornithorynque FM. Gilles Gouget dans votre micro, et puis prochainement évidemment sur le 93.9 de Divergence FM à Montpellier. Une émission dans le cadre du Festival du Chamelier GNU qui se déroule au Mans, et non pas à Le Mans comme on dit dans le TGV. Et avec nous, eh bien, Aurélien de la MMD. Salut Aurélien.
Salut.
Et puis Biture de dogmazic.net.
Bonsoir.
Et puis aussi, bah, un des membres évidemment d'Ornithorynque FM, j'ai nommé Fernando, dit l'Espagnol.
Oui, c'est ça, bonsoir.
Qui tiendra le rôle du Candide dans cette émission qui, depuis 2003, parle du libre, des logiciels libres, de la culture libre, de l'art libre, puisque dans la conférence qu'on vient juste d'animer au Silo, au Mans, un lieu à découvrir, eh bien, on s'est adressé aux musiciens, un débat plutôt réussi, qui était le coup d'envoi du Festival du Chamelier GNU. Même si c'est un petit peu sur les chapeaux de roue, les choses se déroulent plutôt bien.
Bah ouais, écoute, mais sur les chapeaux de roue, effectivement, mais bien.
C'est un petit peu... on salue Teddy, qui était à la régie finale d'Ornithorynque FM sur 90.2. Et puis, on est là pour parler de ce festival qui n'en est pas à sa première édition. Vous, la MMD, vous êtes dans le libre au Mans depuis 99, c'est bien ça?
Alors en fait, les gens de la MMD sont dans le libre depuis 99. La MMD ayant été créée en 2003, elle a raccroché les wagons, quoi. Mais voilà. Et le Chamelier GNU, ça existe depuis 2005 pour la première édition. Et donc là, je ne sais même plus la combientième c'est. Voilà.
Je vais te demander déjà, qu'est-ce que c'est AMMD?
AMMD, c'est
un médicament, un matin, le soir.
C'est une certaine forme de médicament.
J'ai pas de buzzer pour faire dès que j'ai une question.
Donc AMMD, c'est une structure, on va dire, c'est un collectif artistique qui produit globalement de l'art libre, que ce soit de la musique, des expositions, des arts plastiques, du concert, du jeune public, etc. Autant sur disque qu'en spectacle vivant. Et... ça a pris un peu, c'est un peu protéiforme, quoi. Donc ça a commencé un peu sous la forme d'un label, puis ça a un peu pris la forme d'un tourneur, puis maintenant c'est vraiment une espèce de rencontre de pas mal d'artistes qui s'occupent d'eux-mêmes, on va dire, pour faire simple. Enfin, j'entends par là d'artistes qui s'occupent d'artistes, et pas de manager qui s'occupe d'artistes. Voilà. Et puis, tout en art libre, donc art librement téléchargeable, librement recopiable, librement modifiable.
Quand tu disais ça touche tout, même le cinéma?
Alors, on n'a pas produit de cinéma pour l'instant.
D'accord, mais...
Mais pourquoi pas? Dans l'absolu, il n'y a pas de raison de se limiter à ça. Il y a des clips qui ont été faits, par exemple, tu vois, de ce genre de choses. J'ai à peu près expliqué le truc.
Alors, les lettres AMMD...
Ça, tu ne veux pas le savoir, en fait.
Je ne veux pas le savoir. Ouais. D'accord, donc je ne veux pas le savoir. Donc ce soir, je ne veux pas savoir ce que vous dire AMMD.
Non, voilà.
En tout cas, cela n'a rien à voir avec un constructeur de processeurs à qui il manquerait un M.
Ouais, ni avec l'association des médecins et médecins dentistes. Non plus.
Absolument, absolument.
Sachez-le.
Alors oui, l'art libre, c'est de la musique, mais c'est aussi des films. On pense tout de suite à la Fondation Blender, à ses différents courts-métrages en images de synthèse réalisés avec ce logiciel Blender, qui est un logiciel de création 3D qui fait du bruit. L'art libre, donc on vient d'en parler lors de cette première conférence au Silo, qui était à destination plutôt des musiciens, puisque le Silo est un espace au Mans qui réunit une petite dizaine de locaux de répétition. Tout ça fort spacieux, fort bien agrémenté. Il y a même des douches, nom d'un petit bonhomme, à Montpellier, dans l'endroit où il y a des locaux de répète. Il faudrait peut-être y penser pour les pauvres percussionnistes qui transpirent comme des cochons. Et donc, le public était plutôt réceptif, même si c'est vrai que ces questions de logiciels libres, de d'art libre, et puis dans le contexte actuel, etc., c'est toujours un petit peu vaste, un petit peu complexe, parce que tout grand tournant civilisationnel fait toujours un petit peu peur. Un public qui était très attentif ce soir. Là, je me tourne vers Biture Extrême de dogmazic.net.
Oui, tu as vu avec moi, on était quatre à leur parler. Il y avait Antoine Moreau, un des co-rédacteurs de la licence Art Libre avec nous, et puis Étienne Tumult de dogmazic aussi. Une vingtaine plus, ou un peu plus de personnes qui ont donné. Il y a différentes questions sur différentes choses. sur l'accord Creative Commons SSM, sur qu'est-ce que c'est qu'une licence libre, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'économie, par rapport au bouleversement numérique. Je crois que effectivement, ça touche au fondement de ce que c'est qu'un, je dirais du contrat social presque.
Oui, tout à fait. Oui.
Au sens où les outils du libre, qu'ils soient logiciels, qu'ils soient juridiques comme des licences, sont des éléments qui permettent d'organiser une autre manière qu'une distribution de masse de peu pour beaucoup. Là, on arrive à un modèle où on est en train de construire quelque chose de collaboratif, de contributif, où l'attention n'est plus monopolisée par quelques-uns, mais c'est à nous de le faire.
Est-ce qu'on pourrait donner un exemple de ce que c'est quand on parle de musique là, d'une musique libre, qu'est-ce que c'est? Alors, comment ça se passe, grosso modo? Alors, je parle aux auditeurs qui ne connaissent pas du tout, donc comment ça se passe? Alors moi, par exemple, je fais un son. Voilà, j'ai décidé que c'était une super chanson. Voilà, qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux dire que c'est libre? J'ai envie de la passer à quelqu'un. Comment ça se passe?
Alors, la base de la chose, c'est qu'à partir du moment où tu as fait ce son, cette musique, c'est toi l'autre qui en est l'auteur. À D'accord. partir du moment où tu l'as créé, c'est toi qui en est l'auteur. Mm-hmm. Et de ce moment-là, c'est toi, en tant qu'auteur, qui va décider comment tu vas la diffuser, la mettre à disposition du public ou de qui tu veux. Le droit d'auteur classique s'est établi dans l'histoire comme reconnaissance de l'auteur, justement, comme comme créateur et premier diffuseur de l'œuvre. Mmh. Et les licences libres et ce qu'on appelle le copyleft, ça veut dire que c'est l'inverse de copyright, c'est un jeu de mots là-dessus, c'est simplement l'auteur reprend la main par rapport à une évolution historique où il y avait des intervenants comme des maisons de disques, des sociétés de gestion, avec plein de contrats intermédiaires, pour dire... Ma musique, je vous la mets à vos dispositions. Vous pouvez la copier, la partager, la diffuser sous les conditions qui sont définies par telle licence que j'ai choisie, par exemple la licence Art Libre ou les licences Creative Commons. Il en existe plusieurs qui sont la manière pour l'auteur de dire au public voilà ce que vous pouvez faire de ma musique.
D'accord, donc il y a quand même une idée de droit. C'est pas je donne, mais on fait ce qu'on veut avec. Non, il y avait quand même une idée de droit. C'est-à-dire que l'auteur ou le compositeur reste propriétaire et c'est lui qui fixe, en fin de compte, ce que le public ou les autres, je dirais, producteurs, les autres musiciens peuvent faire. C'est bien ça?
Ça, oui, je dirais plus que propriétaire, il reste l'auteur. En fait, c'est une manière de d'exprimer mieux et plus clairement qu'il est l'auteur, et en tant qu'auteur, ça vient de autoritas, autorité, du latin, c'est lui qui va proposer et dire les conditions dans lesquelles ça se fait.
On supprime les intermédiaires.
Ou alors,
on les choisit.
Alors on les choisit, voilà.
Ou on choisit de les supprimer.
Oui. On peut choisir de les supprimer, mais en fait, ça effectivement, le numérique intervient sur beaucoup dans toutes les dimensions de la société. Une des dimensions de ça, c'est la désintermédiation, justement, de faire qu'un musicien qui crée sa musique, qui diffuse sa musique sur Internet, qui va organiser sa présence sur Internet, il peut toucher son public directement. Il peut même faire sa boutique en ligne directement. Il peut tout gérer lui-même, s'il veut. Il peut aussi...
Il a le temps.
S'il a le temps, mais il peut aussi choisir avec qui il va travailler. Il n'est plus obligé de passer par une maison de disques qui va lui signer. Elle va avoir les moyens de lui créer son œuvre, son album. Oui. Parce que maintenant, avec les home studios qui arrivent à des qualités professionnelles, aussi, à ce niveau-là aussi, il y a une désintermédiation. Donc la maison de disques n'est plus en position de contrôle de lui de lui produire son album, son disque, et de lui faire signer un contrat pour 5 disques. Qui fait que si le premier, il va être très content de le faire dans les conditions qu'on lui propose. Le deuxième, si ça a marché, la maison dit, tu vas faire la même chose, on va marketer un peu, on va te refaire un peu ton look, etc. Le troisième, s'il veut faire quelque chose de plus perso, parce qu'il considère que dans son évolution artistique ou personnelle, il veut aller vers autre chose. La maison de disques, qui l'a bien formaté comme un produit, n'est plus très contente et veut le laisser dans son... Comme il a signé pour 5 albums, s'il n'est pas content...
Il est obligé de les faire.
Voilà. Là, étant donné que c'est lui qui a la main et qui n'a pas signé de contrat comme ça à longue durée, exclusif, le liant à un intermédiaire en position de dominateur, il récupère aussi une liberté de ce point de vue-là. Mmh. Et après, c'est aussi les autres musiciens qui vont trouver que son œuvre, cette musique-là, les inspire, ils veulent en faire autre chose, ils veulent s'en servir, ben, ils peuvent le faire d'une manière qui est plus simple. Et il n'y a aucun problème de droit là-dessus. Et le public, les gens qui aiment cette musique-là, peuvent se la partager, peuvent la diffuser, puisque c'est l'auteur qui leur a dit allez-y.
Voilà, il y a une précision à faire, c'est que dans le contexte légal en France aujourd'hui, si on ne fait rien, on est sous le droit d'auteur. Donc moi, je rencontre des fois des musiciens qui me disent « Ah, mais ma musique, elle est libre, je ne suis pas allé la déposer à la SACEM ». Donc il faut leur expliquer qu'ils font fausse route et qu'en aucun cas, le fait de, d'une part, déposer leurs œuvres à la SACEM nous constitue une preuve d'antériorité, puisque c'est pas nécessaire, ça peut constituer un élément, mais en aucun cas, puisque en France, le droit s'applique de fait. Hein, comme on le disait tout à l'heure dans la conférence, si je fais un dessin sur un bout de papier, de fait, le droit d'auteur s'applique. Je n'ai aucune démarche particulière à faire pour que le droit s'applique.
Juste pour préciser,
d'où l'importance, quand on veut s'émanciper de, on va dire, des dysfonctionnements du droit aujourd'hui, dans le contexte de l'usage qui en est fait aujourd'hui par les citoyens, eh ben, il faut explicitement choisir une licence. Alors il y en a toute une panoplie, c'est vrai qu'en musique ça peut un peu engendrer de la confusion chez les musiciens, parce que entre la licence art libre, les licences Creative Commons, et avec tout leur éventail de possibilités, plus un nombre assez important d'autres licences qui sont moins connues, moins médiatisées, mais qui existent aussi, ça fait un peu le grand bazar, etc. Mais ne rien faire fait que sa musique elle n'est pas libre. Hein,
d'accord.
Il faut le stipuler.
Bien, pour préciser, je vais prendre un autre exemple, peut-être plus simple. Je vais me placer, je fais une photo de ma petite fille pendant sa communion.
La photo, c'est pas un exemple plus simple.
Donc la photo m'appartient. C'est moi qui l'ai prise, on va dire.
Ouais.
Donc,
sauf si tu la mets sur Facebook.
Si je la mets sur Facebook, elle appartient à tout le monde.
Non, elle appartient à Facebook.
À Facebook. Ah oui, d'accord.
Mais c'est un cas particulier.
Ah, c'est un cas particulier. Voilà, j'ai loupé. Merde.
Non, mais disons, en fait, si tu veux, ce qu'il faut comprendre du droit d'auteur, c'est qu'en gros, à partir du moment où tu fais quelque chose, le droit d'auteur s'applique. Ça, c'est ce que disait Gilles. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire, le droit d'auteur s'applique? Ça veut dire personne n'a rien le droit de faire avec ton œuvre.
D'accord.
Grossièrement, mais à la limite, dans l'extrême limite, personne n'a même le droit de l'écouter. Enfin, c'est.
Ni de l'avoir.
Ni de l'avoir. Enfin,
oui, voilà.
Et en fait, toi, en tant qu'auteur, c'est toi qui décides de ce que. De ce que tu vas en faire. Donc, on va dire, jusqu'ici, il y avait un choix qui était un peu le choix usuel, c'était de dire, je vais dire à la SACEM que c'est eux qui maintenant vont décider de ce que les gens ont le droit de faire.
D'accord.
D'accord, c'est une délégation finalement, et donc c'est exactement ce qu'on demande à la SACEM, c'est une gestion collective des droits d'auteur, donc on dit à la SACEM, on signe avec eux en disant, ben voilà, moi, mes droits d'auteur, maintenant, c'est vous qui choisissez la façon dont ils sont gérés. Donc par exemple, est-ce qu'on peut les télécharger sur le net? La SACEM dit non. Est-ce qu'on peut machin? Enfin voilà. Par contre, la SACEM dit oui, vous pouvez acheter le CD, et etc., etc. Et en fait, l'idée de la licence libre, c'est de dire, bah, plutôt que de demander à la SACEM de gérer ce truc-là, non, nous on va écrire une licence qui dit à l'utilisateur, bah, voilà ce que tu as le droit de faire avec mon œuvre.
D'accord.
Tu as déjà dû voir ça sur des logiciels, en fait, par exemple.
Oui,
quand tu as un logiciel, tu as une licence d'utilisation, un contrat d'utilisateur, qui dit, bah, voilà, tu as le droit d'utiliser ce logiciel dans tel cadre. C'est-à-dire sur une machine, machin, etc., pour tel usage.
Voilà, par exemple, usage tu as le droit de le passer à tes collègues.
Voilà, ben c'est une licence. Et en fait, le principe des licences libres, c'est des licences qui justement autorisent beaucoup de choses. Comment on fait concrètement pour déposer un morceau sous licence libre? Ben, il suffit juste de le mettre à disposition et d'associer à cette mise à disposition le texte de la licence ou un renvoi vers le texte de la licence. Par exemple, si tu es sur le net, un lien vers le texte d'origine et l'utilisateur est au courant. J'ai beaucoup parlé.
Divergence numérique, une édition spéciale en direct de Ornithorynque FM sur le 90.2 à côté du Mans. Nous sommes à Bouloir et évidemment sur 93.9 de Divergence FM. Une petite pause musicale à présent avec un artiste évidemment en libre diffusion. Un groupe allemand qui nous propose La mort n'est pas un problème, Der Tod ist kein Problem, et c'est Bob Marley.
Divergence numérique.
Divergence numérique.
Avec Gilles Gouget.
pray. One day, oh yeah, bless. Ein Auge offen. Grausam besessen. Rum auf den Nachttisch. Ein Buch sehr krass. Tod ist kein Problem, mir ist es schon geschehen. Der Tod ist kein Problem, mir ist es schon geschehen. Der Tod ist kein Problem, mir ist es schon geschehen. Der Tod ist kein Problem, mir ist es schon geschehen. We'll be right back.
sur le 90.2 de Ornic Torin FM, une édition spéciale de Divergence Numérique, une émission consacrée au libre, au logiciel libre, à l'art libre et au libre en général. Et on est toujours avec Aurélien de la MMD, structure qui milite, qui produit et qui manage aussi des artistes musiciens en musique libre. Et puis avec Biture Extrême, qui est un des membres fondateurs de Dogmasic.net, une plateforme de téléchargement de musique libre qui officie depuis bientôt une bonne dizaine d'années.
J'imagine que 2004-2005.
Voilà, donc dans
la plateforme, et on a musiclibre.com, le premier site d'information. On avait commencé à défricher tout ça sur les licences, essayer de faire un peu le répertoire des labels, musiciens existants. On a commencé fin 2000.
Voilà, donc ça fait une dizaine d'années. Donc ça peut paraître long, mais en fait, au regard de l'histoire, c'est extrêmement court. Raison aussi pour laquelle cette révolution du libre qui est en marche, qui semble assez inévitable tout de même, puisque même des gens de l'ONU aujourd'hui, des économistes, etc., commencent à pondre des rapports en disant que, eh ben oui, effectivement, le modèle économique qu'il y a derrière le libre, finalement, une remise un petit peu à l'heure de la valeur des choses, pourrait être aussi une solution pour régler certains problèmes dans plein de pays. Et puis, on est avec Fernando, qui nous accompagne de Ornithorynque FM, qui joue un petit peu le rôle de Candide, mais c'est un rôle toujours agréable à jouer. On écoutait à l'instant Bo Marley, des Allemands qui nous chantaient Der Tod ist kein Problem, la mort n'est pas un problème. Tant qu'on est vivant, effectivement, c'est pas trop un problème.
Et puis, même une fois qu'on est mort, je crois.
Voilà, et puis on est là dans le cadre du festival du Chamelier Gnu qui se déroule ici même pendant toute la semaine, et puis avec aussi des concerts qui auront lieu jusqu'au 25.
Ouais, voilà. Jusqu'au 25.
Et puis vous qui nous écoutez ici localement, profitez des infos. Demain, il y aura une présentation, un petit peu comme on a fait cet après-midi, à destination des musiciens au silo. Ça sera à la médiathèque.
Ouais.
Et ce sera à destination d'un public plus large et plus néophyte aussi. Donc une présentation qu'on fera toujours avec Antoine Moreau et puis le trésorier Tumulte. Ouais. Vous avez tous des nicknames à Dogmasic.
C'est une pratique nette, ça, pas mal. C'est pas seulement Dogmasic, c'est tous les activistes ou tous les acteurs du net. Ça vient de IRC, ça vient des vieilles pratiques, même sur les bulletin board systems avant, sur les BBS, tout le monde avait des nicknames, quoi, oui. Et puis ça recouvre un peu la pratique des pseudos qui pouvaient exister en dehors du net. Et c'est cohérent aussi avec l'anonymat, qui est aussi un débat actuel.
Absolument, puisque le respect de la vie privée passe souvent aussi par l'adoption d'un pseudo, etc. Alors si certains d'entre vous se demandent c'est quoi le logiciel libre, mais où est-ce qu'on les voit, etc. Gardez en tête, si vous devez en garder qu'une seule, gardez ça en tête, c'est que Internet lui-même, c'est du logiciel libre. C'est-à-dire derrière votre navigateur, même s'il n'est pas libre, votre navigateur, auquel cas vous feriez mieux d'opter pour un navigateur libre, il marche en général toujours mieux. Si votre navigateur n'est pas libre, sachez que derrière votre navigateur, l'infrastructure d'Internet, c'est 99% de serveurs qui tournent sous Apache, qui est un logiciel pour héberger des sites web, etc. Et que finalement, la sécurité d'Internet, elle repose sur le logiciel libre. Alors nous, dans les radios associatives, qui sommes souvent des militants humanistes et antimilitaristes, il faut bien reconnaître que en France, par exemple, c'est en 2003 que l'armée française a dit « Ouh là là, mais la sécurité informatique en dehors du logiciel libre, ça n'existe pas trop ». Des grandes institutions, d'autres armées dans d'autres pays ont fait le même raisonnement, ainsi que les banques, les assurances. Donc voilà, tous les serveurs les plus sécurisés, en général, reposent sur des logiciels libres parce que ça permet à ceux qui l'utilisent, à travers les quatre libertés fondamentales qu'il y a avec le logiciel libre, d'utiliser le logiciel, d'une part, mais aussi de le modifier et même de garder les modifications qu'ils font pour eux quand il s'agit effectivement d'institutions extrêmement sensibles. Ça peut être le CEA aussi, ça peut être une centrale nucléaire, peu importe. Mais aussi, on peut aussi modifier le logiciel, on peut évidemment le redistribuer et en redistribuer les modifications. Quatre grandes libertés qu'on peut retrouver aussi dans l'art libre, à savoir, on peut utiliser, donc écouter la musique. On peut la modifier. Alors, il y a certaines licences qui assujettissent la modification de la musique à l'accord de l'auteur. Mais ça s'est fait en toute transparence, etc. Et puis, tout au long de, bah, de ces débats qu'on a eu cet après-midi, qu'il y aura demain, bah, on découvre aussi que bah, finalement, ça, c'est un autre choix de contrat social, comme tu le disais tout à l'heure, en ces temps fort troublés où on a l'impression quand même que les majors du disque font la guerre aux auditeurs, à leurs clients potentiels, freinent des quatre fers au lieu de comprendre finalement qu'il y a sans doute un nouveau modèle économique à imaginer. Mais c'est vrai que ces sociétés sont quand même dans des situations de rente et qu'on comprend que bah, quand on est dans une situation de rente, on n'a plus trop envie de travailler.
Ben oui, non. Si on profite...
Moi, j'ai jamais été rentier. Moi, je ne sais pas.
Et c'est vrai que d'une société, enfin d'une institution, entreprise ou groupe, quel qu'il soit, qui en est arrivé à une situation de confort et de prospérité sur quelque chose qu'il a fait à un moment... et qui en reçoit les fruits continuellement et n'a pas forcément une incitation très piquante à changer ses manières de faire, à changer ses produits, à innover.
Tu penses à Patrick Hernandez, là ?
Pas forcément, non. Il était... Mais en fait, l'innovation, et surtout dans l'économie numérique, l'innovation, actuellement, elle ne vient plus de... À l'époque, elle ne venait pas d'IBM, elle est venue de Microsoft. Maintenant, elle ne vient plus de Microsoft, elle est venue par exemple de Mozilla pour le navigateur Internet. C'est Firefox qui a totalement réveillé le... À un moment, il n'y avait que Internet Explorer. C'était un monopole qui s'endormait, qui était figé, qui était...
qui n'était pas mis à jour, qui n'était pas soir à virus.
Voilà. Et l'innovation vient toujours d'un petit groupement. Enfin, très, très souvent, c'est un petit groupe qui intervient à côté. Et plus il y a de petits groupes qui ont chacun une motivation à proposer un produit, une œuvre, un concept, un objet nouveau qui peut attirer, c'est ça qui crée une émulation et une vraie concurrence, en fait. Et ces grosses entreprises mastodontes de l'économie néolibérale actuelle qui se prétendent en situation de concurrence, qui prétendent défendre cette concurrence-là, mais à leur profit uniquement, on en arrive à une sorte d'impasse qui fait que quelques gros mastodontes ankylosés bloquent toute évolution du système.
Absolument. Alors, oui.
Je voulais juste savoir par rapport à ce que tu disais, Bitur. Je crois savoir qu'il y a maintenant des grosses entreprises qui font appel au libre pour leur création. Eux, ils disent voilà, avec un cahier des charges, voilà, on a besoin de tel style de logiciel. Est-ce que vous pouvez le créer? Et puis, ils donnent une partie, bien sûr, de fonds pour que ça commence à fonctionner. Donc c'est, et comme ça, ils n'ont plus après à payer de droits régulièrement. C'est un système qui s'est mis en place il y a peut-être une quinzaine, une vingtaine d'années, non ?
Oui, en fait, le logiciel libre en tant que tel a commencé dans les années 84-87. C'est là qu'ont été posées les premières briques fondamentales qui sont les premières licences de logiciels libres, les premiers éléments d'un système opératif libre, les premiers logiciels, etc. Au début... des scientifiques, des labos, des universitaires, des informaticiens passionnés dans différentes, dispersés un peu partout. Puis progressivement, des entreprises sont créées dans le domaine. D'autres entreprises déjà existantes se sont mises à adopter ces logiciels ou à en produire ou à en commander. Et puis des institutions aussi, Gilles citait la Défense, mais par exemple la gendarmerie française utilise depuis... 7 ou 8 ans comme traitement de texte, OpenOffice, qui n'est pas un firewall. Parce que ça, c'était une blague
de Christine qui revient
Albanel. De Christine Albanel quand elle était ministre de la Culture défendant une loi d'AFSI, qui était celle d'avant Adopi. Et des entreprises, effectivement, soit financent, soit produisent elles-mêmes, parce que comme ça. Et quand c'est, pour rebondir sur ce que dit Gilles sur la sécurité, un des avantages aussi d'utiliser un logiciel libre, c'est qu'on peut non seulement produire son code et le vérifier, le modifier, mais on peut aussi savoir ce qu'il y a dedans et ce qu'il n'y a pas dedans. D'accord. Un autre cas où c'est extrêmement sensible, c'est le vote électronique. Oui. Pour les législatives, il y a pas mal de communes en France qui vont voter. C'est une entreprise espagnole qui a produit le logiciel. Elle aurait pu être américaine ou allemande ou même française, ce n'est pas le problème. Mais en tout cas, comme le logiciel est couvert par un secret industriel... On ne sait pas comment fonctionne le logiciel. On D'accord. ne peut pas l'étudier, on ne peut pas être sûr qu'il n'y a pas d'intervention possible sur, et pour une opération aussi fondamentale dans un régime démocratique que le vote et l'élection, c'est un problème capital.
Je dirais que c'est une grosse coucouille.
Alors il faut savoir qu'en plus, l'effet, un des effets collatéraux est plutôt positif, c'est de se réapproprier pour les entreprises la compétence. Parce que c'est sûr que quand on est... Il y a plein de PME qui avaient besoin d'un outil informatique. Il y a une société qui arrivait, qui disait, voilà, machin, ça. OK, ça coûte cher. Bon, oui, c'est normal, c'est technique, c'est compliqué, vous comprenez. Et puis quand on voulait modifier un petit truc dans le logiciel, ça coûtait super cher. Une journée d'un jet informatique, 500 euros la journée ou la demi-journée, selon la renommée de la société. Alors que le client n'avait aucun moyen de contrôle pour savoir quel travail avait été fait. Etc. Donc la conséquence, c'est que les collectivités, notamment à travers l'ADULACT, qui est une forge, une association qui regroupe les régions, les collectivités territoriales, ils ont commencé à se dire, finalement, plutôt que de payer des dizaines de milliers d'euros à telle société pour on ne sait pas trop quoi, finalement, on va embaucher des ingénieurs informatiques, on va utiliser le logiciel libre, donc nos ingénieurs pourront nous certifier que le logiciel il fait ce qu'il est censé faire et pas autre chose. Parce que je ne sais pas si vous souvenez, dans les années 80, tout le monde trouvait ça super drôle dans le tableur de l'éditeur de Redmond, Excel pour ne pas le nommer, qu'avec une combinaison de touches, on pouvait activer un navigateur en 3D. Oui. On appelait ça les œufs de Pâques et tout le monde trouvait ça super fun. Sauf que le problème, c'est que c'est marrant quand je suis étudiant et que j'ai un tableur et que ça fait jeux vidéo en même temps. Mais si je suis l'armée ou si je suis le CEA et qu'on me dit... Il fait quoi d'autre, votre tableur ? Parce que je pensais que c'était un tableur, manifestement, c'est aussi un jeu vidéo. Qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Ah, mais il ne fait rien d'autre. Et je dois vous croire sur parole ? Ah, ben oui. Eh ben non. Ah non, là, ça fait flipper quand même, quoi. Donc, il s'agit aussi de se réapproprier la technologie à son juste prix, puisqu'il y a eu des abus. Il y a des collectivités qui ont lâché des budgets pour commenter trois lignes de code, ça veut dire mettre un dièse devant la ligne pour plus que cette fonction soit active. Et là, c'est carrément de l'escroquerie. Donc, on va dire que la technologie de l'informatique, elle est devenue suffisamment triviale pour que tout le monde se l'approprie et qu'on arrête de prendre les gens pour des billes, quoi.
Et en plus, elle est devenue suffisamment ou démesurément fondamentale et capitale puisqu'elle informe et elle est présente dans tout pour qu'on puisse souhaiter avoir un contrôle de plusieurs personnes sur ces outils pour être sûr effectivement qu'ils ne font pas autre chose que ce qu'on veut, qu'ils ne font pas de choses cachées pour le compte de on ne sait quelle officine ou société, et que ça fonctionne bien. Parce qu'actuellement, tout fonctionne là-dessus. Que ce soit la banque, maintenant bientôt les dossiers médicaux, le nombre de fichiers de police ou de fichiers qui sont là-dessus, il vaut mieux qu'ils soient bien sécurisés, il vaut mieux qu'ils puissent être contrôlables et vérifiables à tout moment pour être sûr qu'il n'y ait pas de grosses couilles dans le pâté, comme tu disais.
Oui. C'est une belle expression. Peut-être allons-nous devoir faire une petite pause musicale à présent, car le temps file. Vous êtes toujours dans Divergence Numérique, aujourd'hui sur Ornithorynque FM 90.2 et Divergence 93.9. Et c'est à présent un groupe qui était présent à Montpellier samedi dernier, Marilyn Rambo, un duo avec une musique assez brutale, mais fort virtuose. Oui. We'll be right back.
Divergence numérique.
Divergence numérique.
Avec.
Et oui, avec Gilles Gouget, Divergence numérique sur Ornithorynque 90.2 et Divergence FM à Montpellier 93.9. Oui, il faut toujours laisser les morceaux de Marilyn Rambeau jusqu'à la fin parce qu'il y a toujours des petits bruits bizarres.
Il y a des œufs de Pâques là aussi.
Voilà, il y a des Easter eggs comme on disait à l'époque.
C'est le cas, toujours, un peu.
Voilà, on parle de libre, de d'art libre et puis de logiciels libres évidemment dans Divergence numérique, mais tout particulièrement ici dans la région du Mans, dans le cadre du festival Le Chamelier Gnu, qu'on retrouve sur chameliergnu.ammd.net. Mais pour ceux qui n'ont pas internet, car il y en a, il ne faut pas les oublier, qui écoutent la radio, ils ont bien raison. Eh bien, peut-être qu'on peut donner quelques rendez-vous, notamment demain. Et ça va se passer à la MJC.
À la MJC Prévert, ouais. Donc centre-ville, enfin Vieux Mans au Mans, donc voilà. Donc alors en fait non, ça va commencer à 16h avec vous deux à la médiathèque Louis Aragon, donc c'est pas tout à fait la MJC Prévert. Et à 18h, cette fois-ci, il faudra essayer d'être un peu moins loquace. Il y aura donc des concerts qui commenceront à la MJC Prévert. Alors demain soir au programme, à 18h, il y a les élèves des ateliers de pratique musique actuelle de la MJC Prévert qui joueront des morceaux libres. Ça, ça fait aussi partie des actions qu'on a envie de mener, c'est-à-dire permettre à des élèves qui ont une pratique collective en apprentissage de se produire sur scène, parce que de toute façon, c'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà. Ça sera suivi de Gros Lot en vrai à l'inventaire. Donc ça, c'est l'électro-minimaliste environnemental. Ça, c'est ce qui est écrit sur le site. Et moi, je dis, c'est cinématographique, quand on me demande. Mmh. Voilà, vous ne m'avez pas demandé, mais je vous le dis. Ça sera suivi de Grand Corps Vidé et ses cachottes. Alors ça, c'est un dommage à Jean Bleu post-Fukushima. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Jean Bleu, c'était un groupe de psychobilly, donc avec guitare électrique et tout ça. Le problème des guitares électriques, c'est qu'il faut des amplis. Ils en avaient marre. Donc ils ont acheté des bouzouki grecs, des banjos, des choses comme ça. Et ils ont reformé la chose sous la forme du Grand Corps Vidé, donc du psychobilly, klezmer, voilà, on rigole bien en général.
Et ils ont remplacé la batterie par son emballage.
Ah oui, voilà, ça c'est le grand... Exactement, la batterie avait été livrée dans des cartons qui servent désormais de percussion. Et donc, au grand plaisir du batteur, je crois. Mais c'est comme ça.
C'est surtout les voisins du batteur qui sont contents.
Oui, en vrai. Ceci dit, il arrive à faire du bruit avec aussi. Et puis pour terminer, il y aura une séance de cinéma avec un film qui s'appelle Sita Sings the Blues, qui est un film d'animation, qui a été primé à Annecy, alors je ne sais plus exactement quand, qui a eu le premier prix d'Annecy et qui a eu un ours de cristal à Berlin. Donc voilà, c'est un film sur le Ramayana, une histoire d'amour en Inde, qui se passe aux États-Unis en l'occurrence. Donc voilà, c'est très clair ce que je viens de dire comme description.
Très très clair.
Voilà. Ça, c'est pour mercredi. Est-ce que je continue notre programme ou est-ce que ça va devenir très vite lourd ?
Ça va devenir très vite lourd et je pense que le meilleur conseil qu'on puisse donner aux auditeurs et aux auditrices, c'est, à part d'aller voir sur chameliergnu.ammd.net, c'est de venir demain à la MJC, déjà à la médiathèque à partir de 16h, et puis après de voir ce qui se passe, et puis après de se tenir au courant tout au long du festival.
Boissons, consommation biologique et locale. Pendant tout
voilà.
Ce temps-là.
Alors ça va souvent de pair et on a souvent le sentiment autour de tout ça que finalement la culture du libre c'est aussi un nouveau choix de paradigme sociétal pour employer des mots super savants parce que pendant la campagne et puis même nos élus à tout niveau ne cessent d'être préoccupés et de nous transmettre leurs préoccupations devant la crise mondiale, l'espèce d'aberration économique dans laquelle se fourvoie l'humanité. Et donc, il y a des nouveaux paradigmes qui sont dispo, et ça s'appelle souvent le libre, avec une majuscule.
Oui, parce que tout simplement, c'est le libre, ça veut dire qu'on met à disposition, qu'on partage, qu'on gère ensemble, qu'on soutient, qu'on entretient ensemble. Et ce n'est plus, que ce soit en finance ou autre chose, un schéma de Ponzi, une pyramide verticale. Il y en a quelques-uns au sommet qui accaparent toutes les ressources, qui profitent de tout ce qu'il peut y avoir, en se préoccupant absolument pas ni du bien-être de tout le bas de la pyramide, ni de la possibilité pour la pyramide entière de continuer à durer. Il y a une sorte de court-termisme des politiques, des économistes, des financiers, actuellement, qui est... En fait, même si en saine théorie économique, si on intégrait tous les coûts induits de démarches absurdes comme certaines concentrations actuelles, si on était vraiment rigoureux en tant qu'économiste ou en tant que financier ou en tant que, il faudrait intégrer ces coûts et considérer que la rentabilité à court terme est en fait déficitaire, est en fait négative et est une perte sèche pour tout le monde.
Et juste pour rebondir un peu sur le truc, par rapport au côté consommation biologique et locale et tout, finalement dans le livre on retrouve aussi cette idée de circuit court, dans ce que tu racontais tout à l'heure, où en fait on va essayer d'enlever les intermédiaires, puisque finalement la création de filières c'est pas trop notre problème. Nous la question c'est plutôt de faire en sorte que à un moment donné un artiste qui s'exprime puisse trouver son public et être diffusé, ou un logiciel qui sert la communauté puisse être utilisé aussi. Et donc le circuit court c'est bien le propre de l'écologie, quand elle est faite dans le bon sens, et du biologique quand ça n'est pas juste un argument marketing. Donc c'est pour ça que voilà, tout ce qui est autour du chamillier gnou actuellement rejoint ce principe, avec des consommations qui sont vraiment du coin, qui sont biologiques, et puis une politique de prix libre qui va aussi dans le sens de ce lien social là.
Oui, donc l'exemple que tu disais, hein, le court-termisme, on en a eu des exemples tout récemment, Mediator par exemple. Après moi le déluge, c'est pas grave, on met sur le marché, on n'attend pas les autorisations. Puis même les téléphones cellulaires qui sont sur le marché depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, il n'y a pas eu d'études avant leur mise sur le marché. C'est-à-dire on veut le produit, alors tout le monde le veut, et puis tout le monde l'achète. Et puis si on commence des études 10 ans plus tard, et puis 20 ans plus tard, on a le résultat des études, sauf qu'il y a déjà des milliers de morts. Enfin, voilà quoi, c'est un petit peu...
Ça arrive souvent dans différents domaines, et quand ça touche à la santé, quand ça touche à la sécurité d'un pays, quand ça touche à l'économie générale, qui est en fait comment allons-nous vivre, il serait quand même au moins pertinent de se préoccuper effectivement de... Parce que comment allons-nous vivre, c'est aussi comment nos enfants vivront-ils, comment la société va pouvoir se continuer, enfin exister en tant que telle.
Et puis l'écueil de privatiser les profits et de socialiser les pertes, au bout d'un moment, les gens se rendent compte que c'est n'importe quoi. Et même certains patrons s'en rendent compte, et même certains financiers s'en rendent compte, et commencent à revoir un petit peu leur copie et à changer un petit peu de discours.
Oui, au bout d'un moment, d'ailleurs, le système rencontre sa propre limite. Ça me fait penser à une fameuse phrase d'un député, c'était sous la 4e République, dans un grand élan rhétorique à l'Assemblée nationale. C'était une situation confuse, je ne sais plus exactement si c'était pendant la guerre d'Algérie ou celle d'Indochine, plus des problèmes économiques et tout ça. Et tout d'un coup, pour continuer, conclure son envolée, il dit « La France est au bord du gouffre, il est temps de faire un pas en avant !»
Ah oui, ça c'est...
Il est plutôt précisément plus que temps de faire un pas de côté, et faire ce pas de côté suppose aussi de se tourner un peu et de se retourner les uns vers les autres. Et d'essayer de trouver un chemin qui va être au début un chemin de crête, mais qui peut ensuite devenir un chemin praticable pour en profiter tout simplement.
Et on peut dire que moi j'établis toujours un parallèle entre les radios associatives et le logiciel libre, puisque les premières radios sont faites aussi sur le constat qu'il y avait une situation d'abus de position dominante de l'ORTF, qui interdisait, il y avait les radios périphériques qui n'étaient pas sur le territoire, qui avaient le droit de diffuser autre chose que la pensée unique. Sauf qu'au bout d'un moment, cette technologie qui était l'apanage de quelques-uns parce qu'elle coûtait énormément cher et que personne ne la maîtrisait, très rapidement, entre les années 50 et 60, est devenue triviale. Les coûts ont baissé, les constructeurs d'émetteurs italiens sont arrivés à faire du matos qui ne coûtait pas cher, les Français, ils passaient la frontière, ils allaient chercher des émetteurs et des antennes et des trucs, ils ont commencé à le faire sans qu'on leur demande s'ils... la question c'est pas est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, c'est la question c'est je le fais. Et dans l'informatique et dans le libre, il y a aussi cette réappropriation d'un bien commun par les gens, et je crois que ça se répète petit à petit. On a connu le monopole des imprimeurs, des éditeurs libraires, situation d'abus de position dominante qui a donné un petit peu naissance au droit d'auteur. qui a donné naissance aussi paradoxalement à ces sociétés civiles de gestion de droit qu'on décrit souvent, nous libristes, quand bien même cette citation de c'est quoi, le Chapelier, c'est ça
La loi Le Chapelier.
Dans la loi Le Chapelier qui disait les auteurs doivent vivre de leur travail, hein, c'est leur propriété, mais, sous-entendu les textes, quand ils sont bons, le public les lit, les relit, s'en pénètre et en fait sa propriété. Et les lois qu'on voit, DADVSI, la DOPI, puis aux États-Unis, en France, l'OPSI, tout ça, puis aux États-Unis, tout un tas de
PIPA, SOPA, et au niveau national, le traité ACTA qui a été négocié en dehors de toute transparence.
Et qui est discuté en ce moment au Parlement européen, etc. Et ben c'est des choses qui nient ce fonctionnement un peu biologique. Et une image aussi qui est assez frappante, c'est que quand vous écoutez une musique qui vous plaît, quand vous lisez un livre qui vous plaît, quelque part, vous enregistrez, vous scannez ce livre, vous échantillonnez ce morceau de musique dans votre tête. Et c'est comme ça que fonctionne tout apprentissage. Donc on voudrait nous faire croire qu'avec les ordinateurs, qui sont issus de notre imagination et de notre capacité d'ingénierie, on voudrait nous interdire de faire avec nos ordinateurs ce qu'on fait avec notre cerveau. Donc le pas suivant, ce sera d'essayer d'interdire à nos cerveaux de faire les fonctions biologiques de base qu'ils savent faire, à savoir copier, recopier, et retransmettre, et modifier, et redistribuer cette modification. Donc là, c'est vraiment... on parle souvent d'industrie de la mort quand on parle de breveter le vivant avec les OGM, etc. Mais là, on voudrait presque breveter le fonctionnement de la... Enfin, nous interdire de penser, quoi.
Dure conclusion, ma
ben maintenant, il va falloir reprendre. Parce voilà, que...
maintenant, il va falloir rebondir. Voilà. On rappelle quand même, pour ceux qui viennent de prendre l'écoute, que cette discussion elle aura lieu donc de 16 à 18 heures demain à la médiathèque au centre-ville du Mans. Ouais. Et on vous invite à y venir le plus nombreux possible.
Tout à fait. Et à la poursuivre dans la MJC Prévert, si jamais on n'arrive pas à la terminer, à la médiathèque Louis Aragon.
Hein. Peut-être qu'on peut aussi parler de ce qui se passe ici au Mans en matière de LIM, parce qu'il y a pas, j'imagine qu'il n'y a pas que AMMD qui s'active en la matière, ou si
Alors en matière de libre en général, non, ça serait un peu réducteur. Enfin, il y a comme dans pas mal de villes un GUL, un groupe d'utilisateurs Linux qui s'appelle LinuxMen. Je ne suis pas super en mesure d'en parler parce que on les a rencontrés, mais voilà, c'est pas, je ne suis pas tout à fait manceau non plus. Donc voilà. Après, en matière d'art libre au Mans, on reste quand même, je pense, la seule structure à réellement s'en préoccuper. Un peu plus loin à Angers, il y a du monde qui en fait, comme le label Ego Twister et tout ça. Pas nécessairement par principe, par contre. Ça, c'est un truc qu'on rencontre assez souvent, finalement. C'est plus une espèce de... Bah, en fait, voilà, hein, les labels, les développeurs d'artistes, les managers, etc. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer de métiers qui ont été inventés autour des artistes. Ils sont quand même un petit peu en train de se poser des questions par rapport au net et tout ça. Et donc, bon, en gros, ils cherchent des solutions. Alors... Bon, quand ils n'ont pas envie de trop chercher ou quand ils veulent continuer à essayer... je pense quand ils ont des gros projets financiers, ils restent sur des choses assez classiques. Mais pour le cas du label Ego Twister, c'est un label assez ambitieux, enfin pas ambitieux, audacieux. Voilà, enfin, ou ambitieux au sens positif du terme. C'est un label qui produit essentiellement des choses qui sont autour de l'électro. Et voilà, en fait, pour lui, le libre, ça a été une solution parmi d'autres. Parmi lesquels on peut aussi citer, il avait planqué des QR codes dans les coins d'Angers, donc les gens trouvaient les QR codes, les flashaient. Bon, alors là, évidemment, écologiquement, moi je m'y retrouve pas, hein, parce que je prends un smartphone et tout ce qu'on veut, mais enfin, voilà, c'est plus dans une espèce de démarche de se dire, bon, il y a des choses nouvelles à inventer, donc faut aller par là. Et puis sur Nantes, par contre, il y a pas mal de gens qui sont assez impliqués là-dessus. Voilà, je pense à des gens comme le Colibri Nécrophile, comme évidemment. Alors Linux Nantes, je ne sais plus comment il s'appelle, mais ça fait partie des gros groupes d'utilisateurs Linux en France.
Nantes qui avait accueilli les rencontres mondiales du logiciel libre en 2009.
Et qui les ont accueillis avant aussi, je crois, mais là, j'étais pas encore né non plus.
Moi non plus. Voilà. Ça, c'est pas vrai. À tout seigneur, tout honneur, on va faire une pause musicale avec Seb Cachotte, groupe dans lequel ton double évolue. ou en tout cas quelqu'un que tu connais bien,
ouais,
qui est un côté un petit peu tyrannique, mais bon, qui est fort sympathique au demeurant. Et on va écouter File Shapes, dont je ne pourrais pas te demander la signification.
Pourquoi ?
Là, je ne sais pas.
Ah d'accord. Eh bien, très bien. Ne me la demande pas. We'll be right back.
Divergence numérique. Divergence numérique. Avec Gilles Gouget.
Dernière partie de cette exceptionnelle divergence numérique en direct du 90.2 d'Ornithorynque FM et sur le 93.9 de Divergence. Un petit clin d'œil aussi à nos amis de Radio Escapade et de CKIA Québec qui diffusent aussi cette émission. On est toujours avec Fernando d'Ornithorynque, avec Aurélien de la MMD et puis avec Bitur de Dogmazic.net pour, dans le cadre de ce festival du chamelier gnu.amd.net pour le site. Aborder la dernière partie de cette émission. Alors, pour ceux qui se disent, oui, la musique libre et tout ça, il faut préciser qu'on disait tout à l'heure que ça fait une dizaine d'années que l'association Musique Libre s'était créée, que ça va bientôt faire 10 ans dans une paire d'années que la plateforme dogmazic.net existe. Moi, je me souviens, il y a une dizaine d'années, quand on avait commencé Divergence Numérique, effectivement, pour aller trouver de la musique libre, on va dire, qui tenait la route, il fallait écouter beaucoup, etc. L'offre s'est considérablement augmentée. D'ailleurs, j'imagine que tu es le mieux placé pour en savoir en termes de volume, mais aussi en termes de qualité. C'est-à-dire que ça n'est plus un épiphénomène ou des trois types dans un garage qui font de la musique. C'est devenu vraiment un choix valide pour bon nombre de musiciens, y compris de professionnels. Là, je parlais tout à l'heure des Québécois de Mister Valère à Québec, qui marchent la mort, quoi, et qui tournent partout dans le monde, etc., et qui ont choisi ce type de diffusion. D'ailleurs, je ne saurais trop vous encourager à aller sur leur site à Mister Valère, c'est facile à trouver, pour télécharger leur musique, voire même l'acheter, puisque on avait terminé la présentation de tout à l'heure au Silo en rappelant que la gratuité est un mauvais mot-clé pour comprendre le libre, c'est plutôt la graciosité dont il faut parler, puisque finalement, c'est aussi permettre aux gens de choisir le prix qu'ils veulent donner, d'acheter, même si c'est acheté à zéro.
Oui, bien sûr, on est tellement libre qu'on peut le vendre et qu'on peut l'acheter. Ce n'est pas des gratuits. Et pour la fondation Free Software Foundation, sur leur site, qui est la fondation du logiciel libre, sur leur site, à un moment, ils avaient mis « free as in free speech and not as in free beer ».
Voilà, puisqu'en anglais,
libre free, comme dans le discours libre, libre expression, liberté d'expression, et non pas qu'en bière gratuite. Effectivement, le libre, ce n'est pas gratuit. Le libre, c'est gracieux, et le libre, c'est un partage, et c'est une construction d'une communauté d'échange et de rétribution. Rétribution à tout niveau et de toutes sortes, et qui fonctionne comme un circuit dynamique qui va de l'un à l'autre. Effectivement, les musiciens, il y en a de plus en plus. Au début, quand on a commencé en 2000-2001, il y avait, mettons, à tout casser, qui utilisaient des licences libres au début, parce qu'il y a plein de musiciens qui faisaient de la diffusion libre avant, qui se sont mis. Il y avait 10 labels dans le monde, peut-être, et quelques centaines de musiciens. Actuellement, les labels, il y en a des milliers, et des musiciens, il y en a des centaines de milliers, voire millions. De tout projet musical, professionnel ou de vie, de toute qualité de musique, il y a des gens comme Valère que tu citais, comme Tsunami Wazari, c'est un groupe d'électro que je connais qui est français, qui commence à tourner. Ils ont fait une tournée l'année dernière au Mexique, cette année entre l'Autriche, Zagreb et Ljubljana. Il y a Trent Reznor de Nine Inch Nails qui, depuis quelques temps, a décidé aussi de quitter les maisons de disques, comme de plus en plus de musiciens le font, et qui a mis ses deux derniers albums en Creative Commons, non commercial, mais partage à l'identique. Donc on peut utiliser ces morceaux, on peut refaire des remixes, etc. Et sur sa plateforme, il y a une partie dédiée à la communauté, à l'échange avec les musiciens qui refont des vidéos, qui refont des remixes de ces morceaux. Et il accepte ça, il l'accueille, et il leur donne un lieu sur la plateforme dédiée à chaque album. Et ça marche du feu de Dieu.
Il y a aussi Lars von Trier qui a commencé un truc il y a quelques années, en fait. Alors, je ne sais pas exactement où ça en est, mais pour sortir un peu du cadre de la musique, mais où en fait il avait fait. Il a énormément de rush qui traîne, notamment avec Zentropa et Pussy Power, donc ça peut être intéressant. A priori, toutes ces bandes-là, ils devaient les diffuser en libre, c'est un truc qui a été annoncé, je sais pas, j'ai pas suivi dernièrement, mais voilà, pour que justement des gens fassent quelque chose, parce qu'en gros, lui, il trouvait pas le temps de le faire, et il se disait que tant qu'à faire. Donc, pour celui qui veut faire un biopic sur Adolf Hitler, pour faire plaisir à Lars von Trier, il peut.
Et puis, là, quand on parle de il y a une dizaine d'années, etc., On parle du fait voilà, que les gens se réapproprient, puis on va dire se libèrent de certains intermédiaires qui avaient tendance à leur dire bon, bah, voilà, signe ici, Coco, ta musique m'appartient et j'en fais ce que j'en veux. Il faut quand même se souvenir que dès les années 60-70, certains artistes étaient en procès avec leur maison de disques parce qu'ils estimaient que les pratiques étaient incorrectes, elles n'étaient pas fair play. On peut citer Frank Zappa qui s'est mis en procès avec la Warner pendant plusieurs années. On peut citer Prince aussi qui s'est débarrassé aussi de sa maison pour créer son propre label. Et la liste est longue. Donc en fait, cette réponse logique, naturelle, biologique, j'ai envie de dire, c'est la réponse à des problèmes et à des questions qui se posent depuis plus longtemps que l'invention du logiciel libre lui-même.
Bien sûr, oui. Mm-hmm. Qui n'ont cessé de se renforcer. Et les choses qu'ont permises le logiciel libre et l'informatique en musique, par exemple, qui est une copie à coût nul et infini, n'ont fait que renforcer certains abus ou rendre encore plus inacceptables certains des abus du contrôle qui est exercé par quelques entités. Où l'écosystème, enfin le système dans lequel ces entités qui voulaient contrôler les choses existent, le système les déborde de toutes parts et ils ne peuvent plus contrôler. Et vouloir après en arriver à tordre les lois pour faire maintenir un contrôle. En fait, le droit est toujours... s'adapte à la vie. La vie n'est pas censée se plier à des lois immuables. Il n'a jamais été écrit de toute éternité qu'il était interdit de copier, de partager une musique. Et le droit, donc même, là, je parle presque en philosophie du droit, enfin en histoire du droit, le droit a toujours été de une permettre. Adaptation ouais. et une... Le droit est lui aussi un contrat social au sens où c'est une conception que la société se donne pour organiser au mieux l'usage et la coexistence de chacun. À partir du moment où un état du droit en vient à imposer des règles abusives et arbitraires sur tous au profit de seulement quelques-uns, il est clair qu'il y a un problème.
Voilà, un problème auquel la solution... c'est le libre. On va rappeler que c'est sur chameliergnu.mmd.net qu'on retrouve tout le programme du festival, que le rendez-vous, c'est demain à la MJC Prévert, 97 Grand Rue, cité Plantagenet, 72 000 Le Mans. Voilà. Et puis à partir de 16h à la médiathèque et puis à partir de 18h pour les concerts à la MJC, eh bien, voilà, on encourage tous ceux qui nous écoutent et qui sont assez près du Mans à se joindre à ce festival et à suivre la suite.
Juste pour dire vraiment, c'est de l'art libre. Jeudi soir, justement, histoire que tout le monde redevienne des artistes, il y aura un bœuf vidéo dirigé. Alors ça, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, un bœuf, donc justement, on entre en... de front dans l'art libre, c'est-à-dire que tout le monde peut participer. Et là, on est vraiment sur de la création commune, du bien commun, voilà, du libre.
Et avant de remercier tout le monde, je terminerai par cette citation empruntée à pas mal de libristes, mais c'est Fred Couchet qui le disait il n'y a pas longtemps, de l'April. L'April, qui est une association nationale qui milite beaucoup pour le libre, april.org. Dans la loi, le vol, c'est la soustraction d'un bien. Quand on vous dit que télécharger, c'est voler, alors que la copie, c'est la multiplication. En fait, on veut vous faire croire que la soustraction, c'est la multiplication. Ce qui serait vraiment nous prendre pour des cons. On va remercier Fernando qui nous a accompagnés de la radio Ornithorynque 90.2 sur laquelle cette divergence numérique a été réalisée. On remercie Biture de dogmasique.net qui était avec nous. On remercie Aurélien de la MMD. Et puis Teddy qui nous assurait la régie de cette émission. On vous souhaite une bonne semaine. On vous souhaite de rester libre. Et à très bientôt.
À demain.
À demain.
À demain.
Terrorist networks. Terrorist states. Terrorist networks. Terrorist states. Terrorist networks. Terrorist states. Terrorist networks. Terrorist states. Terrorist networks. Terrorist states.
Terrorists will acquire. acquire weapons of mass destruction. Terrorists will acquire weapons of mass destruction.